Bien, ben bonjour à tous. Un grand merci dans tous les cas à Clément Sanchez, hein, de m'avoir invité pour vous faire ce séminaire. Alors, je suis d'autant plus content que, comme il l'a très bien dit, en effet, j'ai passé une année formidable au Collège de France dans le cadre de la chaire d'innovation technologique. Alors, dans le cadre de cette chaire, j'ai présenté évidemment pas mal de travaux dans le domaine des nanomédicaments, de la vectorisation des médicaments. Et je me suis dit aujourd'hui, bon, il faut que je présente quelque chose, pas totalement différent évidemment, mais peut-être de focaliser un petit peu mon exposé sur une problématique médicale qui est d'actualité et qui représente un véritable challenge. Et c'est celle, vous le voyez, en fait, du contournement des résistances dans le domaine des maladies graves, en particulier les maladies cancéreuses et les infections intracellulaires, puisque vous savez, vous l'avez entendu dans la presse, etc., à la radio, à la télévision, on en parle énormément. Le contournement des résistances est un vrai problème actuellement de santé publique. Et donc, je vais vous montrer un petit peu en quoi les nanotechnologies peuvent, non pas résoudre totalement le problème, mais dans tous les cas, contourner d'une certaine manière, résoudre un certain nombre de mécanismes de résistance. Alors peut-être avant de commencer, je pense qu'il est intéressant de se rappeler quels sont finalement les grands mécanismes de résistance, tout d'abord dans le domaine du cancer. Alors ce qui est important de savoir, c'est que, et on en parle le plus souvent, c'est que ces phénomènes de résistance existent au niveau cellulaire, bien sûr. Et c'est ce qui intellectuellement est toujours le plus valorisant. C'est par exemple une activité altérée de certains enzymes, par exemple topoisomérase, ou encore, je vais vous en parler largement, une diminution, par exemple, de l'expression des déoxycytidines kinases. Vous pouvez aussi avoir une surexpression ou au contraire une altération des mécanismes de transport cellulaire au niveau des cellules cancéreuses. C'est le cas de la résistance multidrogue. Je vous en parlerai aussi, je vous montrerai comment on peut les contourner. C'est le cas de l'inhibition des transporteurs de nucléosides. Et puis, il y a tous les mécanismes qui sont liés à une altération des mécanismes d'apoptose, c'est-à-dire de mort cellulaire. Alors ça, c'est souvent, c'est ce que les chercheurs, c'est ce qu'on sait, encore une fois, c'est moléculaire, c'est cellulaire. Mais il y a aussi des mécanismes de résistance qui sont purement tissulaires. Alors, c'est peut-être moins emballant sur le plan intellectuel, mais c'est probablement plus important. Pourquoi? Eh bien, parce que, vous savez, quand des cellules tumorales vont se multiplier, eh bien, elles vont créer, on va le voir, une vascularisation pour s'oxygéner. Et en fonction de cette vascularisation, donc de la création finalement de ces capillaires, eh bien, ces capillaires vont avoir une hétérogénéité extraordinaire et une nature de l'endothélium vasculaire tumoral qui va être modifiée. Et puis, vous avez le fait que, c'est tout bête, hein, dans le torrent circulatoire, évidemment, vous avez une pression sanguine. Même chez les gens qui ne font pas de l'hypertension, vous avez une pression sanguine. Et dans la tumeur, vous avez aussi une pression interstitielle. Et quand la pression intratumorale est supérieure à la pression sanguine, vous avez beau administrer des médicaments par voie intraveineuse, vous n'allez jamais diffuser au niveau de la masse tumorale. Et vous voyez, ça, c'est vraiment un mécanisme de résistance qui est extrêmement simple, mais qu'on oublie souvent. Et puis vous avez, et ça, c'est tout le problème, par exemple, du cancer du pancréas, qui est une pathologie absolument terrible, ce sont les propriétés qui sont liées à la matrice extracellulaire, c'est-à-dire que toutes ces cellules cancéreuses vont synthétiser de la matrice qui va venir entourer ces cellules, et pour que des médicaments puissent diffuser à l'intérieur de cette masse tumorale, il va falloir traverser la matrice extracellulaire, et là, eh ben, tout ça va dépendre de la composition, de la structure, de la charge de la matrice, et ça, c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement hétérogène d'un patient à un autre, c'est extrêmement hétérogène d'une tumeur à une autre, c'est extrêmement hétérogène même chez un même patient pour une même tumeur, mais en fonction de l'évolution de la masse tumorale. Alors, vous avez aussi des mécanismes de résistance dans le domaine des maladies infectieuses. Alors, ça, on en parle beaucoup. Et l'un de ces mécanismes de résistance, eh bien, c'est, je dirais, le cantonnement intracellulaire de bactéries qui vont utiliser finalement la cellule pour se multiplier. Alors, de quoi s'agit-il? Ben, vous savez malheureusement que les individus qui sont immunodéprimés, que ce soit par exemple ceux qui sont infectés par HIV ou traités par des chimiothérapies qui sont extrêmement agressives, eh bien, vous savez que le mécanisme normal, je dirais, des macrophages, c'est de capter ces bactéries que vous voyez ici, qui vont se retrouver dans les lysosomes, dont tu as parfaitement parlé, vous voyez, à pH acide. Et normalement, le job de ces macrophages, c'est de tuer les bactéries. Mais quand on est dans une situation d'immunodépression, eh bien au contraire, les bactéries vont utiliser ces lysosomes intracellulaires pour se multiplier. Et ça, c'est une catastrophe parce que vous avez des antibiotiques, par exemple, comme les pénicillines, ampicillines, disons les bêta-lactamines, qui sont très actifs contre les germes extracellulaires, extrêmement actifs, n'ont aucune activité sur ces germes intracellulaires parce que ces antibiotiques ne pénètrent pas à l'intérieur de la cellule. Puis vous en avez d'autres, je ne vais pas rentrer dans les détails, comme les aminoglycosides, qui sont des bases, qui vont donc rentrer très très bien par diffusion dans la cellule, qui vont aller dans les lysosomes intracellulaires, mais au pH acide de ces lysosomes intracellulaires, ces antibiotiques vont être protonés et ils sont totalement inactivés. Et puis alors, vous avez encore, par exemple, la clindamycine, les fluoroquinolones, qui sont finalement des antibiotiques qui pénètrent bien, mais qui ressortent très vite aussi. Et vous n'avez jamais une concentration suffisante au niveau de ces sanctuaires intracellulaires que sont ces infections localisées au niveau des lysosomes. Eh bien, je voudrais vous montrer aujourd'hui en quoi, finalement, l'utilisation de ces nanovecteurs de médicaments vont pouvoir, et à travers des technologies qui ont été développées dans mon groupe, comment on peut contourner ces phénomènes de résistance, pas tous, mais dans tous les cas, certains, et de quelle manière. Alors, tout d'abord, une technologie, il faut le dire, relativement ancienne, vous voyez qu'elle date de 77, et qui est basée donc sur l'utilisation d'une colle chirurgicale, qui sont les cyanoacrylates. Alors, ces monomères que vous voyez ici sont des monomères extraordinaires d'un point de vue chimique, parce que ce sont parmi les rares monomères qui polymérisent en milieu aqueux. Tout simplement par une polymérisation de type anionique, hein, vous avez une attaque nucléophile, et vous allez avoir la polymérisation. Et ces cyanoacrylates, vous le voyez, vous avez un groupement R, et en fonction de la longueur de la chaîne alkyle, eh bien, vous allez avoir une biodégradation de ces polymères, en fait c'est une colle chirurgicale biodégradable, vous allez avoir une biodégradation de ces polymères que l'on peut parfaitement contrôler en jouant sur la longueur de la chaîne alkyle. Plus la longueur de la chaîne alkyle est longue, plus vous allez avoir en fait une difficulté pour les enzymes d'hydrolyser la fonction, comme vous le voyez ici, ester latérale, et donc plus la dégradation va être lente. Plus la chaîne alkyle est courte, plus la biodégradation va être rapide. Et si vous arrivez à, je dirais, contrôler, à maîtriser cette cinétique de biodégradation, vous allez maîtriser aussi la cinétique de libération du médicament, parce que tant que la particule n'est pas dégradée. Et en plus, en fonction des méthodes de polymérisation de ce monomère que vous allez utiliser. Vous pouvez faire de la polymérisation interfaciale et vous allez former ce qu'on appelle des nanocapsules qui vont avoir une fine enveloppe polymère qui va encapsuler soit un compartiment aqueux, soit un compartiment huileux. Ou bien vous pouvez faire des systèmes matriciels qu'on appelle des nanosphères. Et vous voyez là, les polymères forment un espèce de réseau qui est enchevêtré et le médicament est dispersé à l'échelle moléculaire dans ce réseau-là. Alors, il faut savoir que tous ces systèmes, quand vous allez les administrer par voie intraveineuse, eh bien, vous voyez en rouge ici, vous avez des protéines plasmatiques qu'on appelle les opsonines, qui vont venir s'absorber sur ces nanoparticules et qui vont finalement désigner ces nanoparticules comme du non-soi. C'est une réponse immunologique de l'organisme. Et au niveau hépatique, c'est ce que vous voyez ici, vous avez des cellules qui sont les cellules de Kupffer, et qui ont des récepteurs très spécifiques qui vont reconnaître finalement ces nanoparticules décorées par ces opsonines. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous injectez des colloïdes, alors que ce soit des nanoparticules de cyanoacrylate, des liposomes, des nanoparticules de silice, ça vaut pour toutes les particules, des oxydes de fer, eh bien vous allez aller, comme vous le voyez dans cette autoradiographie, par voie intraveineuse, vous allez aller au niveau du foie, vous voyez très très bien ici, les deux lobes hépatiques. Et c'est la raison pour laquelle cette technologie de cyanoacrylate, eh bien, on a voulu l'appliquer dans un premier temps au carcinome hépatocellulaire résistant. Alors j'insiste encore une fois sur le terme résistant. De quoi s'agit-il? Eh bien, c'est une résistance qu'on appelle la résistance MDR pour multidrug resistance. Alors qu'est-ce que la résistance multidrogue? Eh bien, vous voyez, au niveau de la membrane cellulaire, vous allez avoir des protéines d'efflux, comme par exemple la PGP, mais vous allez aussi avoir la MRP, il y a toute une série de familles de protéines d'efflux. Et quand vous allez administrer le médicament, en l'occurrence la doxorubicine, eh bien, c'est les petites boules rouges ici, eh bien, ce médicament va être pris en charge par la P-glycoprotéine, et la P-glycoprotéine va effluer le médicament à l'extérieur de la cellule. C'est finalement un mécanisme de détoxification que la cellule cancéreuse va utiliser. Et le résultat de ça, c'est que dans cette expérience que vous voyez ici, on va prendre un carcinome hépatocellulaire humain. qui vient donc d'une biopsie humaine. On va incuber des concentrations croissantes en doxorubicine, on va regarder la mortalité cellulaire et vous voyez que 100% des cellules vont survivre. Et pourtant, la doxorubicine est un très bon médicament anticancéreux. Eh bien, c'est parce que vous avez cette P-glycoprotéine qui va l'effluer. Et l'idée qu'on a eue, vous le voyez, dans les années 2005, grosso modo, ça a été de dire, eh bien, on va encapsuler la doxorubicine dans ces nanosphères biodégradables de manière à tromper la P-glycoprotéine et à masquer la doxorubicine de la reconnaissance par la P-glycoprotéine. Et vous voyez que ça marche parce qu'en fait, on a restauré, vous le voyez très très bien, la sensibilité de ces cellules cancéreuses MDR résistantes à la doxorubicine quand vous l'incubez sous forme de nanoparticules. Vous voyez, on a refait la même expérience avec la doxorubicine sous forme de nanoparticules et là, on voit une mortalité cellulaire extrêmement importante pour quelques microgrammes par millilitre. Alors, ça, c'est de la culture cellulaire. On met les particules en présence des cellules. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe in vivo. Alors, on a testé ça sur notamment un carcinome hépatocellulaire qui se développe spontanément chez la souris transgénique. On fait, vous le voyez, des biopsies de la tumeur hépatique. Et puis, on va tout simplement regarder par biologie moléculaire, soit par analyse tunnel, soit aussi par comptage histologique. On va regarder les cellules, le niveau de l'apoptose des cellules cancéreuses. Et vous voyez que pour les animaux traités par les nanoparticules de polyisoexylcyanoacrylate chargées en doxorubicine, on arrive à avoir des apoptoses de l'ordre de 10-12%, alors que les animaux traités par la doxorubicine sous forme libre, vous voyez que le niveau d'apoptose est le même que les nanoparticules sans doxorubicine ou même qu'une simple solution de glucose 5%. Donc vous voyez qu'on a in vivo, effectivement aussi, on peut contourner ce phénomène de résistance. Alors, l'étape suivante, je la fais courte parce qu'évidemment, on a fait d'autres essais en préclinique. L'étape suivante, ça a été de passer chez le patient. Alors, ça, c'est relativement compliqué parce qu'il faut savoir que quand vous êtes au niveau du laboratoire, vous allez synthétiser 100 mg de nanoparticules de doxorubicine. Vous allez avec ça pouvoir traiter des centaines de souris et faire les expériences que je vous ai présentées. Pour l'homme, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on va devoir synthétiser plusieurs kilos. L'homme est quand même plus gros que la souris. Et de un. Deuxième problème, c'est que ça doit être stérile, apyrogène, ça doit être fait dans un établissement pharmaceutique. On ne peut pas faire ça dans un laboratoire universitaire. Donc, à l'époque, on a créé une start-up qui s'appelle BioAlliance, qui a fait un essai clinique de phase 1, qui est en cancérologie un essai de tolérance. Puis, on a fait un essai clinique de phase 2, qui maintenant est terminé, dont je vais vous donner le résultat. Et on est actuellement en essai clinique de phase 3, qui est un essai clinique multicentrique. Vous pouvez le voir sur le site web de BioAlliance, qui est un essai multicentrique, qui se fait donc à la fois en Europe. Il y a des dizaines d'hôpitaux européens qui sont en train de tester ces nanoparticules, et puis aussi aux États-Unis et dans certains hôpitaux asiatiques. Et de cette manière-là, vous voyez, on a un très grand nombre de patients, on peut recruter un grand nombre de patients, et on a une certaine indépendance, je vais dire, parce que chacun de ces hôpitaux ne connaissent pas les résultats qui sont obtenus chez l'autre, dans les autres hôpitaux. Et tous les 6 mois, vous avez une réunion d'experts cliniciens internationaux qui n'ont rien à voir avec l'essai clinique, qui regardent les résultats tous les 6 mois et puis qui donnent le feu vert pour continuer l'essai clinique. Et donc là, on vient d'avoir le feu vert pour les 6 premiers mois. En phase 3, il y a 80 patients qui ont déjà été injectés. Et donc, il y a eu le feu vert à l'unanimité pour continuer l'essai clinique. Alors, quel est le résultat de l'essai clinique en phase 2? Eh bien, en phase 2, on a fait, vous le voyez ici, une simple injection d'une dose de l'ordre de 30 mg par mètre carré. En clinique, on exprime ça en mètre carré, peu importe. Et vous voyez qu'à 18 mois, en fait, on a pratiquement 90% des patients traités par ces nanoparticules chargées en doxorubicine, qu'on appelle maintenant transdrug, qui sont en survie, c'est-à-dire qui ont le hépatocarcinome, soit qui a totalement régressé, comme vous le voyez ici, qui est complètement nécrosé, soit qui a été, dans tous les cas, les patients survivent. Et vous voyez que quand on fait le traitement traditionnel, et le seul qui existe actuellement, c'est la chimio-embolisation hépatique, on va emboliser carrément une partie du tissu hépatique, et bien ces patients-là, traités par le traitement traditionnel, vous n'avez que 54% de survie. Donc on a pratiquement doublé la survie des patients à 18 mois, et c'est ce qui nous a permis effectivement de commencer maintenant un essai clinique de phase 3. Alors, nous, au niveau de la recherche, alors c'est une technologie, vous l'avez compris, qui est relativement ancienne. Mais ça, on parlait du temps tout à l'heure, ça vous montre, dans le domaine du médicament, il faut savoir le temps que prennent les choses pour passer d'un essai chez l'animal à un essai clinique de phase 1, de phase 2, et puis de phase 3, c'est juste une parenthèse, ça coûte énormément d'argent, on est dans les centaines de millions d'euros, donc c'est une société qui est rentrée en bourse, et il a fallu faire une augmentation de capital, qui heureusement a réussi, mais tout ça a pris un an, pratiquement, pour pouvoir attaquer. Donc vous voyez, tout ça prend un temps fou, quoi. Il faut bien le savoir. Alors nous, je vais quand même vous parler plus de science, à proprement parler, nous, on s'est dit, on va repartir de cette plateforme et, comme l'a dit Clément, on va essayer de faire des nanoparticules qui sont multifonctionnelles. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, vous avez un cœur qui est à base d'un polymère, encore une fois, biocompatible, biodégradable, testé en chirurgie comme colle chirurgicale depuis maintenant à peu près une quarantaine d'années. On va également coupler, vous allez le voir, à ces polymères soit des fluorophores comme la rhodamine, soit éventuellement d'autres fluorophores, de manière à pouvoir suivre ces nanoparticules in vitro, par exemple, dans des cellules en culture ou éventuellement in vivo. On va les pegyler simplement cette fois-ci pour éviter cette opsonisation, pour que les particules n'aillent pas au niveau du foie, mais qu'elles puissent aller ailleurs. Et puis, on va, en bout de chaîne, mettre, vous le voyez, des petites molécules, comme par exemple de la biotine ou des curcumines. La biotine qui va cibler, on va le voir, des cellules cancéreuses. Les curcuminoïdes, alors ça, on le fait dans le cadre d'un gros contrat européen sur la maladie d'Alzheimer pour cibler dans le torrent circulatoire le peptide A-bêta. Et puis, on peut s'amuser, et puis on va charger tout ça, bien sûr, en médicaments, et puis on peut s'amuser, parce que si vous avez ici des nanoparticules pegylées qui ont de la biotine, vous savez que la biotine et l'avidine ont une interaction, une constante d'affinité extrêmement forte. Et donc, dans notre consortium européen, on a un groupe qui développe des anticorps monoclonaux extrêmement spécifiques du peptide A-bêta et des plaques amyloïdes que l'on a couplé à la streptavidine. Et si vous ajoutez ça, bien vous obtenez des immunonanoparticules qui ciblent de manière tout à fait remarquable, vous le voyez ici, le peptide A-bêta. Alors, comme c'est quand même la chaire de chimie, je vais quand même vous montrer d'un point de vue chimique comment on peut designer ces particules. Alors, vous voyez, on va tout simplement prendre des cyanoacétates d'hexadécyl cyanoacrylate, un cyanoacétate de rhodamine et un cyanoacétate de polyéthylène glycol. On fait une réaction de Knuve-Nagel. On a ce polymère qui est extrêmement hybride, si je puis dire. Si vous mettez ça dans de l'eau, vous avez une organisation supramoléculaire avec le polyéthylène glycol qui se met en surface, le cœur qui est le polyhexyl cyanoacrylate. Et vous voyez que, alors on s'est intéressé aux cellules cérébrales endothéliales puisque on voulait voir dans la maladie d'Alzheimer comment ça pouvait éventuellement passer la barrière hémato-encéphalique. Et vous voyez qu'on est tombé sur des images très intéressantes où on voit par exemple que quand une cellule endothéliale cérébrale se divise, eh bien elle va finalement, les particules vont se diviser à peu près pour moitié en suivant les fibres d'actine dans chacune des cellules filles. Il n'y a aucune cellule fille qui est spoliée, si je puis dire. Elles vont avoir toute la même succession en termes de nanoparticules. Alors ça, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans tous les cas, les galénistes, ils ont plutôt tendance à encapsuler. Ils ne font pas de chimie, ils encapsulent un fluorophore. Et ensuite, ils regardent le fluorophore, comment il se distribue dans la cellule. Mais vous ne savez jamais si ce n'est pas le fluorophore qui a été relargué de la particule ou si c'est réellement la particule que vous suivez. Donc, vous voyez, message important, là, il faut faire la chimie, il faut faire du couplage chimique. Là, vous êtes sûr que vous traquez les particules. Alors, on peut s'amuser aussi et on peut, alors cette fois-ci, encapsuler des quantum dots, vous savez, qui donnent également un signal très fort en fluorescence. Alors là, on s'est amusé, on a pris des quantum dots qui sont verts, la rhodamine couplée de manière covalente qui est rouge, on prend des cellules, vous voyez qu'on voit une distribution des particules en rouge suivant la rhodamine, en vert suivant les quantum dots qui sont distribués dans la particule. Les quantum dots ne sont pas liés de manière covalente et quand vous superposez les deux, vous avez du jaune. Ça veut dire que les particules ne sont pas dégradées. Parce que si les particules s'étaient dégradées, les quantum dots seraient partis d'un côté et le polymère rhodamine de l'autre côté. Vous n'auriez pas eu une superposition des deux. Et puis avec les quantum dots, vous pouvez aussi faire de l'imagerie chez l'animal vivant. Vous n'êtes pas obligé de tuer l'animal pour faire une autoradiographie. Vous pouvez suivre, vous voyez que là, classiquement, on a une capture hépatique de certaines de ces particules. Alors, ça c'est la fonctionnalité d'imagerie. Maintenant, voyons un petit peu la fonctionnalité de ciblage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? On a mis de la biotine. Et on a pris des cellules cancéreuses qui sont les cellules MCF7. Et vous voyez que ces cellules, on les a marquées, on a marqué les fibres d'actine en vert, que vous voyez ici. Donc les noyaux sont bleus et les cellules sont marquées en vert. Si vous incubez les nanoparticules pégylées, c'est-à-dire qui ont du polyéthylène glycol mais qui n'ont pas de biotine, qui sont rouges ces particules puisqu'on les a marquées à la rhodamine, eh bien vous voyez que les cellules restent vertes. Elles ne rentrent pratiquement pas dans la cellule. Vous mettez juste ces petites molécules de biotine en bout de chaîne et effectivement, comme l'a dit Clément, pas sur toutes les chaînes, mais sur certaines chaînes, eh bien, vous voyez que toutes les cellules deviennent rouges. Alors, on a, c'est marrant parce que tous les reviewers sont les mêmes, donc on a soumis ça à une revue. Et puis, il y a un reviewer qui nous a dit, bah, écoutez, c'est très bien, c'est très intéressant, vous allez bien dans les cellules tumorales, mais s'il y a des cellules normales dans cet environnement-là, est-ce que vous n'allez aller que dans les cellules tumorales pendant ces... Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fait une co-culture avec d'une part des cellules d'un cancer du sein humain, les cellules MCF7, que vous voyez ici, qu'on n'a pas colorées, qui sont restées incolores, et on a pris des cellules UVEC, qui sont des cellules endothéliales du cordon ombilical, que l'on a marquées, vous le voyez, en vert. Et puis on a incubé nos nanoparticules, et vous voyez que les cellules tumorales deviennent rouges, et que par contre les cellules normales restent vertes, elles ne deviennent pas jaunes, il n'y a pas de fluorescence rouge qui s'y ajoute. Donc vous voyez qu'on a effectivement des objets là qui sont multifonctionnels, qui sont biodégradables, qui sont biocompatibles, puisqu'on l'a testé en clinique jusqu'en clinique phase 3, et pour lesquels on peut avoir une spécificité d'action tout à fait remarquable. Alors, ça vous montre tout simplement, et ce n'est qu'un exemple, qu'il y a des progrès considérables, bon, et Clément vous l'a montré aussi, hein, qui ont été faits d'une manière générale dans le design chimique, je vais dire, développement de matériaux, etc., vectorisation. Et pourtant, il y a une inflation de littérature dans le domaine. Et si vous regardez le nombre de nanomédicaments sur le marché, eh bien, ça dépend comment on compte, on ne va pas rentrer dans les détails, faire des comptes d'apothicaire, entre 5 et 10. Ce qui est quand même pas beaucoup par rapport à la multiplication des connaissances des brevets qui sont pris. Alors, quelles en sont les raisons? Eh bien, il y en a deux que tu as parfaitement abordées. Le premier, c'est le problème de ce que l'on appelle le burst release. C'est-à-dire que quand on fait de l'encapsulation d'un médicament, d'une molécule médicamenteuse, il ne faut pas croire que tout va se trouver dans le cœur. Ben, vous avez une fraction de la molécule qui va être en surface. Et quand vous allez injecter ce nanomédicament, toutes les protéines plasmatiques vont venir faire de la compétition avec ces molécules adsorbées en surface et ces molécules vont être libérées dans le torrent circulatoire avant d'atteindre le site d'action, avec toxicité, effets secondaires, etc. Deuxième problème qui est de loin le plus important, c'est effectivement ce que l'on appelle le drug loading. Pour être clair, le drug loading, c'est le nombre de milligrammes de molécules biologiquement actives, de médicaments si vous voulez, par milligramme de matériel transporteur. C'est le nombre de milligrammes de doxorubicine par milligramme de polyalkyl cyanoacrylate, par exemple, exprimé en pourcents. Eh bien, ça, en général, c'est quelques pourcents. Dans le cas de cet essai clinique qu'on a fait, on est à 5% de drug loading. Alors, ça, du coup, vous êtes obligé d'avoir des molécules qui sont extrêmement actives, d'où la raison pour laquelle on utilise la doxorubicine. Mais dès que vous avez des molécules qui sont un peu moins actives, eh bien, malheureusement, vous n'atteignez jamais les concentrations suffisantes au niveau de la cible tumorale, au niveau du site d'action. Alors, vous allez me dire, mais on peut injecter plus. Oui, mais là, vous avez un problème. Parce que chaque fois qu'on va injecter 1 mg de doxorubicine, on va devoir injecter 20 mg de matériel vecteur, 20 fois plus. Et très vite, on va être confronté à un problème de toxicologie, puisque vous voyez que tout ça, ça rentre dans les cellules, ça s'accumule, etc. Et donc, il y a un consensus maintenant pour dire il faut qu'on développe des nanobiomatériaux qui puissent lever ces verrous et qui soient biocompatibles. Et c'est là que j'arrive à l'histoire du squalène, parce que l'idée qu'on a eue, c'était de se dire, bon, d'abord, il faut utiliser un transporteur qui soit biocompatible, etc. On a choisi le squalène parce que vous savez que le squalène, d'abord, on en a tous dans notre organisme, hein, au niveau de la peau, on en a des quantités considérables. Chez les mammifères et chez l'homme en particulier, c'est un précurseur de la biosynthèse du cholestérol. Et le paradigme qu'on a développé, c'est de se dire, mais jusqu'ici, tous les gens qui faisaient de tous les médicaments d'ailleurs qui sont sur le marché, et tous les gens qui faisaient de l'encapsulation de médicaments, de la vectorisation, ils font de l'encapsulation physique. Et c'est ça qui fait qu'on a un faible pourcentage d'encapsulation au taux de charge. Et nous, on s'est dit, eh ben, on va changer de paradigme et on va faire de l'encapsulation chimique, d'où l'importance de la chimie. C'est-à-dire, on va coupler moléculairement la molécule de médicament à la molécule du transporteur. Et comme ça, chaque molécule de transporteur aura une molécule de médicament. Voilà l'idée à la base. Et on a dit, pourquoi est-ce qu'on va prendre le squalène ? Eh bien, parce qu'en fait, le squalène, pour être transformé en lanostérol et puis en cholestérol, il doit rentrer dans la poche hydrophobe de cette enzyme, qui est l'oxydosqualène cyclase. Et pour faire ça, il va devoir adopter une conformation moléculaire extrêmement compacte. Et on s'est dit, on va tirer parti de cette conformation moléculaire pour coupler, alors dans un premier temps, des analogues nucléosidiques au squalène. Alors, pourquoi des analogues nucléosidiques ? Parce que ce sont des molécules qui ont un extraordinaire potentiel thérapeutique, à la fois dans le domaine du cancer, c'est le cas de la gemcitabine, dont on a parlé tout à l'heure, la cytarabine aussi, à la fois dans le domaine des maladies virales anti-HIV, comme la ZT, par exemple. Mais ce sont des molécules qui diffusent très peu à travers les barrières biologiques parce qu'elles sont très hydrophiles, sauf par transport actif, on va le voir. Et d'autre part, elles induisent très rapidement des résistances et elles ont tout un problème majeur, c'est qu'elles sont rapidement métabolisées. Alors, Clément en a parlé. Dans le cas de la gemcitabine, vous voyez, il y a cette fonction aminée. Et quand vous injectez ça au patient, vous avez tout de suite une déamination de cette fonction aminée. Et la gemcitabine est transformée en difluorouracile, qui est un métabolite totalement inactif. C'est d'ailleurs pour ça qu'en clinique, vous le savez, il faut qu'on fasse des perfusions qui durent parfois 4, 5, 6 heures en fonction des pharmacocinétiques. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était de dire on va prendre le squalène, évidemment on va un peu le transformer en acide squalénique pour pouvoir faire de la chimie, et on va coupler cette fonction carboxylique à la fonction aminée, comme ça en plus on va protéger la fonction aminée. Et on a synthétisé un bioconjugué qui s'appelle, que je vais appeler hein, la gemcitabine squalène. Donc chaque molécule de squalène va avoir sa molécule de gemcitabine, et si vous faites le rapport des poids moléculaires, eh bien vous voyez que vous avez à peu près un pouvoir de charge de l'ordre de 50% et plus de quelques pourcents. Et en plus, le burst release, il est évité, parce que entre le squalène, le transporteur et le médicament, la gemcitabine, vous avez une liaison amide. Et cette liaison amide, en fait, elle va être hydrolysée, on l'a montré, par les cathepsines B et D, et vous savez que ces enzymes sont hyper-exprimées dans les cellules tumorales. Et donc, ce n'est que essentiellement dans les cellules tumorales qu'on aura cette rupture. Alors, c'est là que c'est fort intéressant, cette technologie. On a pris ce bioconjugué, on l'a mis dans de l'eau, et on a obtenu, toute seule, on n'a pas dû agiter, rien du tout, on obtient des nanoparticules d'une centaine de nanomètres. Et on a fait de la diffraction rayons X, du rayonnement synchrotron. Vous voyez qu'on a une organisation supramoléculaire. Et ici, on a montré que c'était en fait des phases hexagonales inverses. Alors, vous savez, le CNRS nous dit maintenant qu'il faut prendre des brevets, il faut moins publier, etc. Bon, très bien, on a pris un brevet. Dans les brevets, on écrit des articles, on a écrit l'article. Et on a dit, le brevet revendiquait un nouveau nanomédicament à base de gemcitabine. Puis on s'est dit, mais au fond, pourquoi pas faire ça avec d'autres analogues nucléosidiques ? En particulier, vous voyez, le DDC, on a commencé modestement avec le DDC, on a dit qu'il y a une fonction aminée, on va coupler de la même manière, on a eu le DDC squalène, rebelote, on a eu des nanoparticules. Alors, on a appelé le brevet, nouvelle formulation, gemcitabine squalène, DDC squalène. Puis on s'est dit, bah oui, mais quelqu'un pourrait contourner le brevet en fixant le squalène au niveau du sucre et pas au niveau de l'hétérocycle. Et donc, on a fixé cette fois-ci le squalène, vous le voyez, au niveau de la fonction hydroxyle en 5' du DDI, qui est aussi un antiviral. Et bien, vous voyez qu'on obtient des nanos. Et puis, on s'est amusé, des nanoparticules de la même taille, hein, 100-150 nanomètres. On a fait ça avec la AZT, avec la cytarabine, avec la thymidine. Et finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas un médicament, mais une plateforme. Du coup, on a revendiqué, évidemment, au niveau du brevet, beaucoup plus. Vous savez que pour un brevet, c'est très important de pouvoir revendiquer, d'avoir des revendications qui sont d'autant plus larges parce que vous vous protégez sur un plus grand nombre de médicaments. Alors, maintenant, mon cours concerne, bien entendu, le contournement des résistances. Alors, comment est-ce que ce nanomédicament peut contourner des résistances ? Alors, juste un mot pour vous rappeler le mécanisme d'action de la gemcitabine, qui est un anticancéreux qui est prescrit en première intention dans le cancer du pancréas. C'est quand même le principal médicament, le numéro un pour le traitement du cancer du pancréas. En fait, cette molécule rentre par transport actif, vous le voyez dans la cellule cancéreuse, par un transport de nucléosides qu'on appelle le transporteur HENT1. Et puis, quand la gemcitabine est dans le cytoplasme cellulaire, elle est phosphorylée, vous avez la gemcitabine triphosphate, et c'est elle qui va s'intégrer dans l'ADN, qui va bloquer l'élongation de l'ADN. Très vite, notamment dans le cancer du pancréas, Vous avez soit de novo, malheureusement chez certains patients dès le départ, soit après quelques traitements, vous avez une down-regulation, vous avez une diminution de l'expression du transporteur de nucléosides. Et conclusion, la gemcitabine, eh bien, vous voyez, vous n'avez plus que quelques molécules qui peuvent rentrer au niveau intracellulaire, qui sont phosphorylées, qui ne sont pas suffisantes pour tuer les cellules. Et ça, vous le voyez très très bien ici sur l'IC50 de la gemcitabine. On a pris deux lignées. Une lignée sensible, celle-ci. Vous voyez que la dose nécessaire pour tuer 50% des cellules avec la gemcitabine, hein, le gemcer qui est sur le marché, c'est de 24 nanomolaires. Si vous passez sur les cellules résistantes, celles-ci, qui ont moins de transporteurs de nucléosides, vous voyez qu'on est à 4300 nanomolaires. Vous voyez bien le mécanisme de résistance. Qu'en est-il avec les nanoparticules de gemcitabine squalène? Eh bien, de manière très étonnante, on s'est rendu compte que ces particules ne rentraient pas par endocytose, parce qu'on a mis des bloqueurs d'endocytose et on a vu que la gemcitabine squalène rentrait. On a mis des bloqueurs du transporteur de nucléosides HENT1, on a vu que la gemcitabine rentrait très bien. Et on a décortiqué ça en se rendant compte que de manière très curieuse, et comme on ne s'y attendait pas du tout, c'est qu'en fait ces particules se débobinent très rapidement au niveau extracellulaire. Elles sont prises en charge par l'LDL, et du fait que le squalène est une molécule qui a une affinité extraordinaire pour les bicouches de phospholipides, la gemcitabine squalène va enrichir la membrane extracellulaire, et puis vous avez un simple phénomène physico-chimique de partition entre la membrane extracellulaire et les membranes intracellulaires réticulo-endoplasmiques et membrane lysosomiale-endosomiale. Et puis vous avez quand même une petite fraction qui petit à petit va passer dans le cytoplasme et là va être hydrolysée. Résultat, comme votre porte d'entrée n'est plus le transporteur de nucléosides, eh bien vous voyez que sur les lignées sensibles, vous avez à peu près, un petit peu moins bien, le même IC50 que la gemcitabine sous forme libre. Mais vous voyez que sur la lignée résistante, eh bien, vous avez une IC50 d'une centaine, de 140 ou 150 nanomolaires contre 4300 avec le GEMSAR qui est sur le marché. Et donc voilà, simplement en distribuant différemment le médicament à la cellule, avec un vieux médicament, comment vous pouvez faire du nouveau et finalement contourner un mécanisme de résistance. Alors, vous allez me dire, ça c'est très bien, mais ça c'est de la culture cellulaire. C'est tout à fait vrai. Et donc, on est passé ensuite aux modèles in vivo, à différents modèles in vivo, je ne vais pas tous les présenter. Le premier, c'est la leucémie L12-10, qui est un cancer murin, extrêmement agressif. On va prendre les cellules leucémiques, on va les injecter aux souris de laboratoire par voie intraveineuse. Ces cellules vont faire des métastases absolument partout, au niveau des poumons, au niveau de la rate, au niveau des reins, au niveau du foie, etc. Et les souris vont maigrir en bleu et vont mourir après environ une vingtaine de jours. Si vous traitez maintenant ces souris par le GEMSAR, hein, qui est sur le marché, à une dose de 100 mg par kilo, eh bien, c'est ce que vous voyez ici en violet. Vous voyez que les souris vont mourir non plus après 20 jours, mais après 40 jours. Le médicament a quand même une activité, mais elles vont toutes mourir. Il n'y a pas ce que l'on appelle de souris guéries, c'est-à-dire de survivants long terme. Et si vous injectez la gemcitabine squalène sous forme de nanoparticules, cette fois-ci à 20 mg par kilo, une dose 5 fois moindre, ça ne veut pas dire qu'elle est moins toxique, ça veut dire qu'elle est 5 fois moins importante, eh bien, vous voyez en rouge que, en fait, vous allez avoir 75% de survivants long terme, et ce sont des souris guéries. On en a gardé, d'ailleurs, des mascottes dans le laboratoire pendant pratiquement une année. Alors, ça, c'est un modèle murin. Alors, vous savez qu'il existe aussi des modèles humains. Alors, ne faisons pas de confusion, on n'est pas chez l'homme. On va tout simplement prélever des cellules d'un cancer du pancréas humain, qu'on appelle les cellules PANC1. On va prendre des souris de laboratoire, on va les ouvrir, on va sortir le pancréas, sont des souris immunodéprimées, on va injecter les cellules tumorales dans la tête du pancréas de ces souris, on va ensuite les refermer, on va les diviser en deux groupes. Un groupe, on va les réouvrir après environ 16 jours pour regarder la taille de la tumeur, comment est-ce que la tumeur a évolué. Et l'autre groupe, on va étudier la survie. Quels sont les animaux, on ne va plus les rouvrir, ceux-là, qui vont survivre et ceux qui ne vont pas survivre. Alors, voyez que ici, le traitement par la gemcitabine squalène va entraîner une diminution considérable de la masse tumorale au niveau du pancréas et pour une tumeur humaine. Vous voyez que ici, la gemcitabine sous forme libre, vous avez une légère diminution par rapport aux animaux non traités ou par rapport à des animaux traités avec des nanoparticules de squalène, mais sans gemcitabine. On a quand même dû vérifier cela. Et tout ça se traduit exactement comme pour la leucémie L12-10, vous le voyez, par une survie beaucoup plus importante, une survie de 70% là, des animaux traités par le nanomédicament gemcitabine-squalène, alors que tous ceux traités par le GEMSAR, qui est sur le marché à l'heure actuelle, vont mourir également après entre 45 et 50 jours. Alors, on a fait toute l'immunohistochimie, je ne vais pas rentrer là-dedans, et on a montré qu'en plus, tout ça était bien corrélé sur les biopsies à un niveau d'apoptose beaucoup plus important avec le nanomédicament. Alors, juste pour vous dire que dans le cadre d'un ERC, de l'ERC Advanced Grant, là, on a eu également l'idée de se dire, mais si ça marche avec le squalène, alors vous savez que dans la nature, le squalène, c'est un terpène. Vous avez dans la nature un nombre de terpènes absolument incroyable. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire finalement des squalènes artificiels en couplant la gemcitabine à un polyisoprène dont on pourrait maîtriser la longueur. C'est Nicolas Julien qui a fait ça dans mon équipe. Et on a utilisé, je le montre ici parce que comme c'est la chaire de chimiste intéressant, donc la polymérisation de type NMP, c'est-à-dire qu'on va mettre un groupement alcoxyamine, sur la gemcitabine, et puis on va faire croître, vous le voyez, le polyisoprène, et on peut avoir des polyisoprènes qui vont avoir des poids moléculaires variables, qui, pour certains d'entre eux, forment des nanoparticules, et pour lesquels on a des activités tumorales relativement variables. C'est une manière de faire, finalement, je vais dire, des squalènes artificielles. Alors, on a encore amélioré le système. On a amélioré le système comment ? Eh bien, en utilisant des oxydes de fer. Et qui sont des toutes petites particules donc d'oxyde de fer que vous voyez ici. Et on a nanodéposé à la surface de ces nanoparticules d'oxyde de fer le bioconjugué de gemcitabine-squalène. Et l'idée, c'était d'avoir des nanoparticules guidées par un champ magnétique extracorporel, c'est-à-dire qu'on va mettre un champ magnétique au niveau de la tumeur de la souris pour attirer ce nanocomposite. Alors, en l'occurrence, c'est bien des nanoparticules hybrides sélectivement au niveau de la tumeur. Et puis alors, on a fait ça, rappelez-vous, on avait utilisé une dose de 100 mg par kilo de gemcitabine. Ici, on s'est dit, on va prendre une dose de 5 mg par kilo. Ce n'est pas de l'homéopathie, mais on est vraiment à des doses extrêmement faibles. Et vous voyez que si vous suivez la croissance tumorale des animaux non traités en noir, que vous les traitez par la gemcitabine 5 mg par kilo, les boules blanches, évidemment, il n'y a aucun effet. Si vous injectez les triangles noirs, les nanoparticules de gemcitabine squalène, mais sans oxyde de fer, vous voyez que vous avez un bel effet, hein, même à une dose aussi faible, mais après 20 jours, vous voyez que vous avez une augmentation de la masse tumorale. Il faut atteindre 20 mg kilo pour stopper complètement la tumeur. Et puis, si vous injectez les nanocomposites avec le champ magnétique extracorporel, vous voyez que pour une dose aussi faible, vous inhibez complètement la croissance tumorale. Autre avantage de cette approche, c'est que les oxydes de fer diminue le signal T2 en imagerie IRM, et donc vous pouvez faire de l'imagerie. Alors vous voyez ici la souris, on a fait une coupe sagittale au niveau de la tumeur, on voit la tumeur ici, on zoome sur la tumeur, alors vous voyez très bien cette jolie masse tumorale quand on a injecté ces nanoparticules, mais qu'on n'a pas mis de champ magnétique extracorporel, donc on n'a pas attiré magnétiquement les particules. On est à peu près à 20 jours, on est ici. Hein. Ben, vous voyez qu'on a une masse tumorale importante. Si on injecte les nanoparticules avec le champ magnétique extracorporel, vous voyez que la tumeur va fondre. Et les points noirs que vous voyez, c'est l'hyposignal qui est dû aux oxydes de fer. Et en histologie, d'ailleurs, on a retrouvé l'oxyde de fer de manière très claire. Et donc, ça, c'est l'idée un peu du nanotéranostique, c'est-à-dire que dans la même nanoparticule, vous avez une double fonctionnalité, une fonctionnalité thérapeutique que vous voyez bien ici et une fonctionnalité diagnostique que vous pouvez faire par l'imagerie. Et ça, ça ouvre la porte. Bon, là, on n'est pas en clinique. Je ne sais pas comment on pourrait développer ça, d'ailleurs, au niveau clinique. Je ne suis pas sûr, mais si on pouvait traduire ça en clinique, c'est ce que l'on appelle la porte ouverte à la médecine personnalisée. Parce qu'on va injecter ce nanocomposite chez un patient A. On va pouvoir faire de l'imagerie, voir comment la tumeur répond. Si elle répond, on continue à administrer. Si elle ne répond pas, c'est quand même des anticancéreux. On arrête le traitement. Ce n'est pas la peine de créer des effets secondaires inutiles. Alors, maintenant, je vais vous... Ça, c'est analogue nucléosidique, gemcitabine. Alors, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut appliquer ça à d'autres médicaments qui ne sont pas des analogues nucléosidiques? Et, bien entendu, on s'est intéressé à la doxorubicine, pour les raisons qui ont été expliquées. C'est un très bon médicament anticancéreux, d'abord, qui est utilisé en clinique, mais surtout, il donne de la fluorescence, donc on peut le suivre dans les cellules, etc. Et ça, c'est une publication qui vient d'être acceptée, qui est donc extrêmement récente, qui date d'il y a... qui a été acceptée il y a une semaine. Et de manière très étonnante, on a constaté qu'alors vous avez vu que la gemcitabine squalène faisait des sphères, eh bien la doxorubicine squalène, à condition de faire le couplage au squalène et d'utiliser la doxorubicine chlorhydrate, eh bien on a des structures que nous on appelle spermatozoïdes, vous voyez ici, qu'on peut appeler aussi train-boucle en fonction de la cryomicroscopie, des techniques cryomicroscopiques. Enfin bref, on a des structures allongées, et simplement en cryothème, vous voyez très très bien qu'on a des structures magnifiquement allongées. Et donc, vous voyez que ça fait à peu près une centaine de nanomètres, on a injecté ça dans le rat de laboratoire pour voir un petit peu quelle était la pharmacocinétique, et là où on a une surprise extraordinaire, c'est ce que vous voyez ici en vert, c'est que vous avez des systèmes furtifs, c'est-à-dire des concentrations plasmatiques sur 24 heures qui sont extrêmement importantes, qui sont beaucoup plus importantes en rouge que quand on administre la doxorubicine sous forme libre. Et ça, dans un premier temps, on ne l'a pas compris parce que, bon, vous avez vu, je vous ai dit, Clément aussi, que les particules, il faut les pégyler en surface pour empêcher l'opsonisation. Mais ici, ce n'est pas pégylé en surface. Alors, en plus, on a vu, vous le voyez ici, que l'élimination urinaire de la doxorubicine est très importante. Sous forme de ces nanospaghettis, eh bien, on n'a presque pas d'élimination urinaire, du moins pendant les 24 premières heures. On augmente la concentration tumorale par rapport à la doxo libre. Et on diminue la concentration cardiaque. Alors ça, c'est très important, je vais y revenir. Pourquoi ? Parce que la cible toxicologique de la doxorubicine, c'est la toxicité cardiaque. Et les cliniciens savent très bien que quand on a traité des patients à une dose de 500 mg par mètre carré, on doit stopper le traitement, même si la tumeur répond bien, à cause de cette toxicité cardiaque. Vous voyez que les concentrations cardiaques en doxorubicine squalène sont extrêmement faibles par rapport à la doxorubicine sous forme libre et une heure après l'injection et 24 heures après l'injection. Alors, comment expliquer cette biodistribution extrêmement différente ? En fait, on l'explique de la manière suivante, et on va faire la microfluidics pour comprendre tout ça. Mais quand vous êtes dans le torrent circulatoire, encore une fois, c'est basique, hein, ce n'est pas de la biologie moléculaire, il y a un flux sanguin, il y a de la pression. Et il est normal, intuitivement, physiquement, que des particules allongées, elles vont s'orienter, bien entendu, dans le sens du flux sanguin. Et elles vont présenter systématiquement leur longueur la plus grande aux cellules macrophagiques, que sont les cellules de Kupffer du foie. Et les cellules de Kupffer du foie, alors ça, ça a été fait avec des nanotubes de carbone, elles ne peuvent pas reconnaître des particules qui sont allongées et qui sont toujours allongées de la même manière, avec la grande dimension qui est présentée aux cellules. Alors que si vous prenez des particules sphériques, que vous les injectez de la même manière, elles sont immédiatement reconnues par les macrophages. Et donc, on pense qu'on a ici un effet de forme qui explique la furtivité du vecteur. Alors, l'étape suivante, sans faire de pégylation, et vous savez que maintenant, il y a beaucoup d'agences de médicaments de par le monde, en particulier la FDA, qui ne veut plus entendre parler de polyéthylène glycol, parce que c'est un polymère non biodégradable, parce qu'il y a eu, il y a pas mal de publications qui disent qu'on active le complément, parce que vous avez le food and path syndrome, etc. Donc, c'est intéressant d'avoir une alternative à l'utilisation du polyéthylène glycol pour avoir des systèmes long circulating. Alors, qu'en est-il de l'activité ? Ben là, on a pris deux modèles de tumeurs. Le modèle MIA-PACA, qui est une tumeur humaine du pancréas. Le modèle M109, qui est une tumeur murine du poumon. On a testé l'évolution de la masse tumorale en fonction du traitement. En noir, vous avez les animaux qui sont traités tout simplement par une solution saline, 9 pour 1000 d'NaCl. Vous le voyez ici en bleu, ce sont des nanoparticules de squalène ou d'acide squalénique sans doxorubicine. En rouge, c'est la doxorubicine sous forme libre. Et en vert, vous avez le traitement par les nanoparticules spaghetti de doxorubicine squalène. Vous voyez qu'il n'y a pas photo, on ne doit pas faire de statistiques. On a une inhibition totale des masses tumorales sur deux cancers qui sont très agressifs, un cancer humain, un cancer murin. Et parallèlement, on a fait une étude toxicologique bas de gamme qui est simplement de suivre le poids des animaux. Et vous voyez que sur le modèle M109, où les animaux sont quand même, je vais dire, physiquement très atteints par la tumeur, eh bien, vous voyez qu'on voit une grosse perte de poids, des animaux qui ont été traités par la doxorubicine et qui sont beaucoup plus sensibles à ce traitement-là, qui est toxique pour ces animaux-là. Alors, tout ça a été traduit aussi en immunohistochimie. Alors, qu'est-ce qu'on fait en immunohistochimie ? On va regarder, on va prélever les tumeurs et on va regarder au niveau de ces biopsies tumorales, on va regarder l'expression, vous le voyez, de caspase 3, qui est la signature de l'apoptose, également par effet tunnel, et vous voyez que les nanoparticules de squalène d'oxorubicine vont induire de manière absolument épouvantable des grands nombres d'apoptoses au niveau de ces biopsies. Vous le voyez ici aussi d'ailleurs, hein, caspase, ici caspase. Par contre, si vous regardez l'antigène KI67, qui est un antigène nucléaire, mais qui s'exprime au niveau membranaire quand les cellules sont en prolifération, donc c'est un marqueur de la prolifération, eh bien vous voyez que là, c'est ce que vous voyez en noir, la doxorubicine sous forme libre que vous avez ici, vous voyez bien qu'on a des cellules en prolifération et qu'on les supprime totalement avec la doxorubicine squalène. Alors on a également fait une étude toxicologique. Toxicologie, c'est absolument fondamental si vous avez un produit très efficace mais qui donne des effets secondaires importants. Et on s'est intéressé, bien évidemment, à la toxicité cardiaque. Alors pour ça, on a un modèle qui est très connu, qui est le modèle du rat hypertendu. Donc ce sont des rats génétiquement modifiés qui sont hypertendus. Et on va les traiter avec une injection par semaine de doxorubicine à 1 mg par kilo ou une injection par semaine de doxorubicine squalène à 1 mg par kilo ou à 2 mg par kilo. On va forcer la dose pour voir si on est meilleur. Et après, alors première bonne surprise qu'on a eue, hein, c'est que, vous voyez, en cours d'expérience en rouge, eh ben, vous avez des animaux qui reçoivent la doxorubicine sous forme libre à 1 mg par kilo qui vont mourir. Ce qui n'est pas le cas avec la gemcitabine squalène. Et vous voyez que ces animaux de doxorubicine vont perdre du poids, ne vont plus manger, beaucoup moins, parce qu'il y a aussi de la toxicité intestinale, vous voyez, c'est tout le problème des anticancéreux, et puis ils vont perdre du poids. Donc on voit bien la toxicité qui apparaît. Et en fin de course, ben, on va faire une biopsie, et vous voyez ici la biopsie des animaux qui ont été non traités, donc ça c'est un myocarde tout à fait sain, traité par les nanoparticules de doxorubicine squalène, c'est absolument parfait. Traité doxorubicine squalène double dose, on ne voit pratiquement rien, il y a quelques petits, bon, c'est pas parfait, mais c'est pas dramatique. Et alors, vous le voyez que les animaux traités par moitié de la dose de doxorubicine sous forme libre, on a des toxicités avec une vacuolisation cellulaire qui est extraordinaire. Et puis, on a un marqueur de la souffrance cardiaque qui est la troponine. Alors là, on prélève du sang, on dose la troponine. Vous voyez que la troponine, à partir du 40e jour, chez les animaux traités par la doxorubicine sous forme libre, elle va augmenter de manière considérable, ce qui signe une très forte toxicité cardiaque. Et vous voyez qu'avec la doxorubicine squalène, simple et double dose, on n'a rien du tout. J'en arrive maintenant, deuxième grand domaine, les infections intracellulaires. Alors, je vous ai expliqué, l'idée, c'est de dire, on va amener un antibiotique, en l'occurrence une pénicilline, dans ces sanctuaires intracellulaires où vous avez des bactéries qui sont en multiplication parce qu'on a des individus qui sont immunodéprimés. Pourquoi ? Ben parce que les particules sont captées par endocytose exactement comme les bactéries. Donc, on doit se retrouver dans les mêmes compartiments. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, ici, on a couplé au squalène, tout simplement, non plus de la gemcitabine ou de la doxorubicine, mais un antibiotique, à savoir la pénicilline. Et on a fait un système stimuli-responsif, endogène, pH sensible, parce qu'on a fait une liaison en rouge qui est hydrolysable à pH acide, et une liaison en bleu qui n'est pas hydrolysable à pH acide. Alors que soit hydrolysable ou pas hydrolysable, vous voyez qu'on a des magnifiques nanoparticules et que bien qu'on n'ait ni des analogues nucléosidiques ni de la, de la doxorubicine, eh bien c'est vraiment une plateforme qui peut être adaptée à pas mal de médicaments. Alors quels sont les résultats très rapidement qui ont été obtenus ? On a utilisé des macrophages infectés par Staphylococcus aureus, qui est un germe qui est extrêmement sensible à la pénicilline. Et vous voyez que ici vous avez le macrophage qui est infecté, vous voyez, les petits points rouges et verts sont les bactéries intracellulaires. Puis maintenant, c'est facile, on a des kits qui peuvent vous marquer les bactéries en vert si elles sont vivantes et en rouge si elles sont mortes. Et vous voyez que le macrophage, il ne fait pas le job, il ne tue que quelques bactéries intracellulaires, alors que normalement, il devrait tous les tuer. C'est bien entendu des bactéries résistantes. Si vous traitez avec la pénicilline sous forme libre, eh bien vous voyez très très bien que vous avez des tas de bactéries vertes. Il n'y a pas de grande modification par rapport aux macrophages qui n'étaient pas traités. Ça vous explique d'ailleurs pourquoi, malheureusement, les patients infectés par HIV meurent de maladies opportunistes, qui sont des maladies qui, quand nous les avons, sont éradiquées immédiatement par les antibiotiques. Parce que chez nous, les germes sont extracellulaires, on est traité par des antibiotiques, c'est terminé, enfin, terminé après une semaine d'antibiotiques, mais là, on est en intracellulaire avec des macrophages qui, qui n'ont pas une bonne activité immunologique, et donc vous voyez tout le problème. Et vous voyez que si on prend les nanoparticules de pénicilline squalène avec la liaison pH sensible, sans la liaison pH sensible, ça ne marche pas. Eh bien, vous voyez qu'on tue absolument toutes les bactéries intracellulaires. On a fait les comptages, bien entendu. Ma dernière diapositive, c'est pour mentionner la collaboration qu'on a eue avec l'Institut Lavoisier, avec Gérard Ferret, et puis maintenant Christian Serre. Et vous savez que l'Institut Lavoisier, ils avaient développé ces magnifiques matériaux qui sont alors là, pour le coup, effectivement, des hybrides organiques, inorganiques, qu'on appelle les nanomorphes. Et bon, on s'était rencontrés et il m'avait dit, les carboxylates de fer, on injecte bien des oxydes de fer en imagerie, etc. C'est peut-être pas trop toxique. Alors, l'idée, c'est qu'en fait, vous allez avoir des oxydes de fer qui vont être pontés, tout simplement, par des diacides dont on peut modifier la longueur, la flexibilité, etc. Et en fonction de ça, on forme des cages, vous le voyez, qui vont avoir des pores, quand je dis des cages, c'est plutôt des pores, qui vont avoir des tailles que vous pouvez parfaitement contrôler en choisissant le carboxylate de fer que vous voulez. Alors nous, avec ce matériau qui a été découvert par l'équipe de Gérard Ferret, on a fait des nanos. Et on a appliqué ça à une problématique importante en oncologie qui est l'utilisation du busulfan. Il faut savoir que le busulfan est utilisé en oncologie pédiatrique pour les maladies de type myélome, myélome multiple, etc., mais à très très forte dose. Et ça donne de très bons résultats, mais malheureusement, dans un certain pourcentage des cas qui est malheureusement trop élevé, vous avez ensuite des maladies dégénératives du foie qui apparaissent, simplement parce que le busulfan est une molécule qui cristallise extrêmement vite. Vous avez des petits cristaux de busulfan qui se forment dans les petits capillaires hépatiques, et malheureusement, ces enfants, ils ont une dégénérescence hépatique qui est fulgurante, et ils meurent très rapidement. Et donc, ça fait longtemps qu'on se dit qu'il faut qu'on encapsule le busulfan pour le vectoriser ailleurs que dans le foie et pour l'amener mieux au niveau de la tumeur et pour éviter cette maladie de dégénérescence du foie suite à l'administration de busulfan. Et nous, on avait pas mal travaillé là-dessus avec des liposomes, avec des nanoparticules de cyanoacrylate, etc. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas pourquoi ? Parce que dès qu'une molécule de busulfan envoie une autre, vous avez de la cristallisation. Et même quand vous encapsulez, vous avez des molécules qui ne sont pas encapsulées, qui, elles, cristallisent. Comme elles cristallisent, elles vont extraire les particules de l'intérieur, le busulfan de l'intérieur de la particule vers l'extérieur. Voyez tout le problème. Et donc, quand on a vu ça, on s'est dit, mais ça, c'est une technologie intéressante qu'on va appliquer au busulfan. Et on a pris qui a une taille moléculaire, dont le pore a une taille qui correspond exactement à celle du busulfan. Et on a pu uploader des quantités importantes de busulfan sans cristallisation. Et donc, on avait un vecteur intéressant pour le busulfan, qu'on ne peut pas encore utiliser in vivo, parce que le problème, c'est que maintenant, il faut péguiler tout ça, et ça, c'est compliqué, parce qu'on péguile malheureusement aussi les pores. Ce n'est pas évident de ne péguiler que la surface et pas les pores, et quand on péguile les pores, il n'y a plus de place pour le busulfan. Enfin, bref, l'histoire n'est pas simple. Mais par contre, ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'on a fait de l'imagerie, et qu'on a montré que c'était aussi des systèmes de type théranostique, parce que non seulement vous pouvez encapsuler du busulfan, mais vous voyez que vous avez une diminution un hyposignal au niveau du foie par rapport aux animaux non injectés. Et vous voyez la petite languette que vous voyez ici, c'est la rate. Vous voyez comme on marque bien la rate avec ce type de nanovecteur. Alors, quels sont maintenant les défis futurs dans le domaine des nanomédicaments? On peut en discuter évidemment longuement. Le premier, c'est certainement de développer des nanovecteurs avec des taux de charge élevés en médicaments et une libération que vous pouvez contrôler, mais qui soit contrôlé par la cellule ou par le tissu, de préférence. Alors ça, on a déjà des systèmes, mais probablement qu'en termes de drug loading, on a besoin de systèmes, encore une fois, qui soient biocompatibles, biodégradables, transposables en clinique, etc. Il y a tout ce que j'ai voulu, alors c'est ça que j'ai voulu vous montrer aujourd'hui, c'est les nanotechnologies pour contourner les mécanismes de résistance. Pourquoi ? Vous savez qu'actuellement, l'industrie pharmaceutique, grâce à la chimie, il faut bien le dire, développe des molécules qui sont, ou grâce aux biotechnologies, qui sont de plus en plus spécifiques d'une voie de signalisation. Gros avantage, on est sélectif, on est spécifique, on est moins toxique. Gros désavantage, c'est que très vite, on constate qu'on a des résistances qui apparaissent immédiatement. Malheureusement, la nature, elle va trouver des voies de contournement de cette voie qui est bloquée. Et donc, il faut bien dire, l'industrie pharmaceutique, maintenant, peine à trouver de nouvelles molécules capables de faire des cocktails pour contourner ces phénomènes de résistance. Et moi, je suis absolument convaincu que en modifiant la formulation pharmaceutique sous forme ici de nanotechnologie, en délivrant ça différemment aux cellules, et dans certains cas, certainement pas dans tous les cas, eh bien, on peut certainement contourner des phénomènes de résistance dans le domaine du cancer, dans le domaine des maladies infectieuses, je vous l'ai illustré, aussi probablement dans les maladies du système nerveux central. Vous savez par exemple que dans le domaine des dépressions, vous avez 10 à 15% des patients qui sont réfractaires absolument à tous les antidépresseurs. Et pour des raisons qu'on comprend mal, c'est aussi des mécanismes de résistance. Alors, il y a le développement de nanoparticules multifonctionnelles, mais qui soient développables en clinique. Ça, c'est certainement un très, très grand challenge. Alors, faire de la médecine personnalisée, c'est fondamental. Parce qu'on pense maintenant qu'on ne va pas pouvoir traiter tous les patients avec nanomédicaments, mais qu'il va falloir, serrer les patients, voir ceux qui sont caractérisés par un effet EPR, ceux qui n'ont malheureusement pas d'effet EPR, etc. Et tout ça, on va pouvoir le faire grâce au développement de plateformes de théranostic ou nanotheranostic, mais il faut que ce soit des systèmes qui soient développables. Et là, vous savez que développer des systèmes médicamenteux, rien qu'en termes de scaling up, etc., c'est quand même pas trivial. Et puis, c'est probablement aussi concevoir des nanomédicaments sensibles à des stimuli, comme tu l'as dit, endogènes ou exogènes. Pourquoi ? Parce que, bon, vous avez ces vecteurs pégylés, vous avez ces vecteurs où on vous met des anticorps qui vont reconnaître, etc. Alors, on a au niveau européen une commission qui réfléchit un petit peu entre les gens qui ont développé des systèmes, qui sont éventuellement en phase clinique, et puis des cliniciens qui ont l'habitude d'utiliser ces systèmes. Et les cliniciens nous disent que les nanomédicaments sur le marché, incontestablement, on gagne en toxicité. Ce sont des produits moins toxiques, surtout dans le domaine de la cancéro, mais aussi de l'antibiothérapie. Alors, ça veut dire que c'est intéressant, vous allez dire moins toxique, c'est aussi plus efficace, parce qu'on peut en administrer plus. La dose maximale tolérée est augmentée. Mais ils disent, vectorisation, pas sûr. Nous, on ne voit pas systématiquement un effet EPR chez l'homme. Quand on fait des biopsies, bon, normalement, ça ne devrait pas, ça se fait de temps en temps. On ne voit pas nécessairement des concentrations supérieures dans les tumeurs par rapport aux médicaments libres, comme on le voit dans les animaux en préclinique. Et ça, c'est toute la problématique entre la préclinique et la clinique. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en préclinique, vous avez tous des souris qui ont le même fond génétique. Vous leur injectez les cellules tumorales au même moment. Donc, les tumeurs ont le même fond génétique. Elles sont exactement les mêmes. Donc, vous pouvez avoir, évidemment, des réponses, vous l'avez vu, qui sont même spectaculaires, qui sont reproductibles. Quand vous passez chez l'homme, tout est très différent. D'abord, chez l'homme, vous avez des gens qui ne vont pas avoir d'effet EPR. Donc déjà, qui vont avoir une forte pression intratumorale, le médicament ou le nanomédicament ne va pas diffuser. Vous avez éventuellement des individus qui vont avoir un effet EPR au début. Quand vous allez avoir tout le développement de la tumeur et, je vais dire, la néovascularisation, etc., puis vous savez qu'il y a une étape de nécrose tumorale, et donc chez le même patient, eh ben, ça ne marchera plus éventuellement quand on va traiter pour la cinquième ou la sixième fois. Vous allez avoir des patients qui, pour une raison X ou Y, vont avoir des récepteurs qui répondent très bien à l'anticorps que vous avez mis. Mais vous savez que c'est plus compliqué de dire « il y a un récepteur, on va le viser ». Non, c'est... il y a un polymorphisme, les récepteurs peuvent modifier de conformation, etc. Donc, vous voyez, ni les patients n'ont le même fond génétique, ni les tumeurs, même quand on dit un adénocarcinome, la prostate, ce n'est pas le même chez un individu A, B et C. Et même chez un même individu, le fond tumoral peut dépendre en fonction de l'évolution de la tumeur. Donc, vous voyez, tout ça est extrêmement compliqué. Et on se demande maintenant si le fait d'avoir des systèmes qui répondent à un stimulus physique, un champ magnétique, une hyperthermie, etc. Mais ça, si vous grillez des cellules chez la souris, vous allez griller des cellules chez l'homme. Je veux dire, le fond génétique intervient probablement beaucoup moins à ce niveau-là. Donc, alors, ça aussi, ce n'est pas facile à développer, mais c'est certainement des voies qui sont extrêmement intéressantes. Et puis, je voudrais terminer en remerciant, donc, bien entendu, tous les gens de mon équipe qui ont collaboré peu ou prou à l'un ou l'autre exemple que je vous ai montré ici, en particulier les chimistes, puisque c'est la chaire de chimie, donc Didier Desmaël, hein, qui est un chimiste organicien que tu connais sans doute, qui a fait les couplages chimiques du squalène à la gemcitabine, etc. Il y a également Nicolas Julien, qui est un jeune chimiste des polymères au CNRS et qui, notamment, connaît bien la polymérisation NMP. C'est pour ça qu'on a fait ce papier-là. Et donc, la conclusion de mon exposé, c'est de dire que, finalement, la manière de donner vaut au moins autant que ce que l'on donne. Alors, qui est-ce qui disait ça? Est-ce que c'est Saint-Augustin? Est-ce que c'est Molière dans l'Avare? Ou est-ce que c'est Corneille? Je vous laisse le choix. Je vous remercie.